schmatz, quoi, hein, ce coup-là.
Oui. Merci Vincent. Donc, ben, la parole est à vous. Je vais prendre différentes questions ou différentes remarques. Ce n'est pas forcément des questions, monsieur.
En tant que citoyen, je trouve un peu curieux qu'il y ait des entités qui s'appellent les îles Caïmans, les îles de Guerre britanniques ou Jersey et Guernesey. Je veux dire, comment peut-on supprimer ces entités? Est-ce que c'est envisageable? Parce que dans le domaine de la guerre, par exemple, on avait envisagé que Monaco disparaisse. Je veux dire, on se pose la question, pourquoi ces entités existent?
Il y a d'autres questions. Oui, Christian.
Une petite question. Vous avez dit qu'actuellement, on est entre 60 et 80 milliards d'euros de fraude en France. Et vous avez dit aussi que ça a augmenté. Mais est-ce qu'on pourrait donner un chiffre du même genre, du même ordre de grandeur, il y a 10 ans, il y a 15 ans?
D'accord. Oui.
On en récupère combien des 60-90? Enfin, j'ai entendu, il y avait quelques chiffres qui sont sortis récemment en France.
On prend une quatrième question.
Oui, moi j'étais étonnée, j'avais entendu à la radio il y a quelques années qu'au fond, Arsène Michelin, Métal, c'était en Belgique, hein, il avait fait un milliard de profits, il avait payé comme un bon pourcent sur le. Et je me dis, à ce moment-là, comment se fait-il que les services fiscaux, je ne parle pas grandes, surtout que les grandes entreprises, on est bien au courant de toutes les grandes entreprises. Donc je me dis, si on est un bon contrôleur, on se dit bon, ma petite liste, c'est toutes les grandes entreprises. Si on va voir toutes les grandes entreprises, toute leur petite méthode de fraude, c'est bien qu'il y a une fraude toute. Déjà on commence par là parce que c'est gros, donc on ramasse tout le.
Alors, une dernière question, madame tout au fond, madame tout au fond, et après on reprendra une autre.
Grosses entreprises. Une fois que les gens qui sont dans les services fiscaux, les mecs qui sont dans les services fiscaux, justement, s'occupent des entreprises, ils leur donnent des informations une fois qu'ils sont revenus en privé.
On laisse Vincent répondre. Edith, tu seras la première personne à intervenir tout à l'heure.
Oui, je vais partir de la dernière question parce que ce qui est vrai, c'est que pendant un certain temps, c'est beaucoup moins vrai depuis quelques années, vous aviez des inspecteurs des impôts qui, au bout de quelques années d'activité, étaient recrutés dans le privé. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Certains n'avaient pas forcément un sens du service public très développé. Alors, c'est pas très développé, hein, je veux dire, ça l'a été dans les années 70-80, quand les années 90, beaucoup moins depuis le début des années 2000. Mais ce qu'il faut voir, c'est que pour peu qu'on ait un sens du service public pas trop développé, et puis il faut voir aussi que les cabinets arrivent et achètent. Hein. Quand je dis achètent, c'est que pendant quelques années, ça a été des collègues qui multipliaient par 4 ou 5 leur rémunération en gardant toujours, même si la logique était totalement changée, en gardant toujours un métier fiscal technicien. Et souvent, ce sont des ex-collègues qui n'avaient pas nécessairement une approche citoyenne de la chose ou qui s'en arrangeaient, on va dire comme ça. Et effectivement, certains sont devenus, dans les cabinets Lefebvre par exemple, il y a d'autres cabinets, Ernst & Young et tout ça, ils sont passés dans le privé. Même si, alors depuis quelques années, c'est beaucoup moins vrai pour les inspecteurs des finances publiques, parce que l'inspecteur des impôts, maintenant, c'est devenu l'inspecteur des finances publiques. Mais on retrouve un pantouflage chez les hauts fonctionnaires, les inspecteurs des finances, qui passent dans des grands cabinets d'audit ou dans des banques, par exemple. Ce qui pose un vrai problème de déontologie. Là-dessus, on est totalement d'accord. Alors, je remonte sur supprimer les îles Jersey et îles Caïmans. Pas facile, parce que la réponse officielle, c'est que ce sont des États souverains. Donc, on ne supprime pas des États souverains. Après, c'est une réponse pour partie vraie, en partie hypocrite aussi. Parce que les îles Jersey sont de fait rattachées à la couronne britannique. Et si la couronne britannique voulait en finir avec l'opacité, avec la déréglementation de Jersey, elle pourrait. Mais elle ne le veut pas. Parce que pour que la City soit attractive, il faut que, par exemple, il y ait des antennes, que ce soit comment dire, les îles Jersey ou d'autres. Parce qu'il y a d'autres territoires dans l'environnement de la couronne britannique. Donc c'est typiquement le style de débat des îles Caïmans, pareil, hein, où on a des assurances, des banques qui se sont, l'essentiel des banques et des assurances ont des filiales aux îles Caïmans. Donc il y a de tels intérêts là-bas liés, des intérêts privés liés aux intérêts publics des grands États, c'est que ça devient un problème politique. Voilà. Et pourquoi depuis longtemps les tentatives, notamment par l'OCDE, de dire il y a des listes noires, vous savez, on en a entendu parler, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais au début des années 2000, on a eu des listes noires de territoires non coopératifs. Puis à chaque fois que les États prenaient un engagement de coopérer, ils disparaissaient de la liste noire. Ce qui fait que début 2009, il n'y avait que 3 États sur la liste noire. Mais par contre, curieusement, il n'y avait jamais eu autant de paradis fiscaux sur Terre. Mais ils avaient tous pris des engagements de coopérer. Mais ils ne le faisaient jamais. Et puis, le système est très lourd. L'OCDE a réhabilité le système des listes noires. Donc pour sortir, il faut avoir signé 12 conventions. Donc ils ont cranté un peu au-dessus. Il ne s'agit pas de prendre un engagement, il s'agit de signer. Oui, mais signer, ça ne veut pas dire mettre en œuvre. Et l'évaluation par les pairs, c'est-à-dire l'évaluation par chacun des pays, est très très longue. Elle va prendre des années. C'est pour ça que ce système n'est pas efficace et qu'il faut y substituer un système contraignant, il faut le dire, réglementé, d'échange automatique d'informations. Pour autant, on n'en est pas là. Alors on n'en est pas là, même si l'OCDE a publié l'année dernière un rapport qui prône l'échange automatique d'informations. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est très long. Attac disait il y a une douzaine d'années déjà, qu'il fallait un système d'échange automatique d'informations. À l'époque, on dit c'est infaisable. Maintenant, on dit oui, ce serait nécessaire. Que de temps perdu et donc d'argent public perdu, au passage. Donc voilà, tout ça pour dire que on aurait techniquement les moyens d'imposer une réglementation si politiquement on en avait la volonté. Donc la question, elle est bien posée aux politiques. Sur l'évaluation de la fraude, c'est vrai que c'est important de savoir comment ça a évolué. Alors, il n'y a pas 10 ans, mais on avait mené un travail d'évaluation en 2006, qu'on avait publié en 2007, sur la base des résultats du contrôle fiscal 2005. Donc en fait, on est presque au bout de 10 ans. On était sur 42 à 51 milliards d'euros à l'époque. On était sur 42 à 51 milliards d'euros sur la base d'une extrapolation des résultats du contrôle fiscal. Et il y avait un autre travail à l'époque qui avait fait un peu date. C'était le Conseil des prélèvements obligatoires, qui est un organisme rattaché à la Cour des comptes, qui disait 30 à 40 milliards d'euros, mais avec une définition de la fraude beaucoup plus restrictive. Ce qui fait qu'en fait, on était entre guillemets dans les clous. Progressivement, l'estimation de 40 à 50 s'est imposée dans le débat public. Certains d'ailleurs le disent encore, il faut qu'ils se mettent un peu à la page. Donc ça, c'est sur les travaux, je ne vais pas dire les plus sérieux, mais en tout cas, voilà, par parallélisme des formes entre les méthodes, on voit bien ce qui a évolué. Et puis, de mémoire, au début des années 90, on était à l'époque à 200 milliards de francs. Enfin bon, il s'agit de traduire ensuite, ça veut dire 30 milliards d'euros, quoi, en clair. Donc on a une évaluation en montant, il faudra rapprocher ça de l'inflation pour le corriger, mais même corriger de l'inflation, on a une augmentation de la fraude. Et alors, quand on regarde dans le détail, on a des bougies, hein, c'est-à-dire que comme certains systèmes de contrôle se sont développés, bon, par exemple, j'imagine que beaucoup d'entre vous sont salariés ou retraités, lorsqu'on est salarié ou retraité, la caisse de retraite ou l'employeur communique à l'administration fiscale les données, ce qui sert d'ailleurs à pré-remplir vos déclarations d'impôt sur le revenu. Mais auparavant, même quand ce n'était pas pré-rempli, on l'avait après, ce qui fait qu'on faisait un recoupement. On appelait ça dans les services recoupement montant sur montant. Donc l'automatisation de cette forme a plutôt diminué les oublis ou les fraudes à l'impôt sur le revenu des salariés. Donc certains types de fraudes ont plutôt tendance à se resserrer, à diminuer, d'autres à augmenter. Donc voilà, la contraction, décontraction, si j'ose dire. La décontraction, elle est du côté de la fraude complexe internationale. Sur les résultats du contrôle fiscal, alors sur les 60 à 80, on notifie, c'est-à-dire on clone un contrôle fiscal en disant voilà, vous devez tant en droit plus pénalité. On est à 18 milliards d'euros, dont environ 4 milliards de pénalités. Ce qui est un montant significatif, bien sûr. Là-dessus, on en recouvre la moitié au bout de 2 ans, entre 60 et 70% au bout de 4 ans. Simplement, le taux de recouvrement a tendance à diminuer, parce qu'on a compris des comportements de fraude au recouvrement. C'est-à-dire, vous faites toper, vous avez un redressement fiscal, vous vous arrangez pour ne pas payer. Voilà, vous organisez votre solvabilité, vous mettez en liquidation, etc. C'est une fraude qui existe malheureusement de longue date, mais qui a eu tendance à se développer, notamment avec la crise. Puis il y a eu aussi des vraies difficultés financières pour ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là aussi, bon, je vais rentrer un peu dans le détail de l'organisation du contrôle fiscal. Vous avez schématiquement dans la Direction générale des finances publiques 3 niveaux de contrôle fiscal. Les directions nationales qui font, pour les particuliers comme pour les entreprises, de la TVA, de l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, l'ISF, de la fraude de haut vol, on va dire. Bon, vous avez, donc ça c'est direction nationale. elles, leurs résultats en termes de redressement évoluent à la hausse. Ça évolue à la hausse parce que quand vous prenez l'affaire Bettencourt, les 3000, l'affaire des 3000 qu'Eric Woerth avait sorti par exemple, et puis il y a quand même quelques cas comme la fraude au quota carbone, de fraudes particulièrement coûteuses qui ont été détectées, eh bien, sur quelques affaires exceptionnelles, ça augmente le résultat de ces directions nationales. Ce qui est plus inquiétant, c'est que le niveau interrégional et départemental, où on a des brigades dans les deux niveaux, lui diminue. Ce qui nous pose un vrai problème, en analyse, nous, ce qu'on dit très clairement, c'est que ce sont des services qui sont alimentés par d'autres services qui ont été frappés de plein fouet par les suppressions d'effectifs. Donc ça veut dire qu'on a un vrai problème structurel hein, au sein de la direction générale des finances publiques sur la détection de la fraude et donc, par voie de conséquence, sur l'identification de la fraude, le contrôle fiscal et le recouvrement. Enfin, sur les grands groupes, alors, de manière très prudente, je ne dirais pas que tous les grands groupes fraudent, en tout cas, ils optimisent tous. Ensuite, si on les vérifiait tous, on pourrait voir s'ils fraudaient tous ou pas. Au-delà de la boutade, ce qui est vrai, c'est que tous les travaux montrent qu'il y a des écarts entre les taux réels d'imposition entre les grands groupes et les petites et moyennes entreprises, ce qui est un des facteurs d'injustice également. Il faut le dire, hein, il n'y a pas de tabou là-dessus. On peut comprendre que les PME en aient, entre guillemets, ras-le-bol de cette situation-là. Davantage d'équité fiscale, ça supposerait à tout le moins d'avoir le même taux d'imposition, puisque le taux d'imposition sur les sociétés est un taux proportionnel. Sauf pour les petites entreprises, dans certaines limites où il est à 15%. Et pourquoi il est bas? Déjà parce qu'elles optimisent. Elles optimisent, elles ont le crédit impôt recherche, elles ont des régimes de groupe, des régimes le régime Murphy, le régime de l'intégration fiscale, permet à des sociétés, des groupes de sociétés, de soit d'exonérer sur les dividendes qui sont versés au sein d'un même groupe, soit de compenser les bénéfices et les déficits au sein d'un même groupe. Donc ça bénéficie par construction aux grands groupes. Les grands groupes, c'est pas la supérette du coin, voilà, tout simplement, hein, ou le boucher du coin. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, j'allais dire légalement, les sociétés, les grandes sociétés payent moins d'impôts. Ce qui du coup interroge quand même sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur la justice fiscale, pour lutter contre, enfin, avant de lutter contre la fraude, il faut déjà un système fiscal juste. Le système fiscal juste, déjà, il est mieux compris. S'il est mieux compris, il est un peu moins fraudé. Et s'il est plus simple, il est encore moins fraudé. Ensuite, il y a évidemment de la fraude très, très particulière à détecter. Je vais reprendre l'exemple de la redevance. Je vous ai parlé tout à l'heure du crédit impôt recherche. Lorsqu'une société fait une recherche en France, admettons que ça soit une vraie recherche avec un vrai brevet sur une vraie trouvaille, pour faire court, elle va céder ce brevet à une de ses filiales dans un pays où miraculeusement le taux d'impôt sur les sociétés est à 0%. Elle va lui payer des redevances. Nous, si on arrive en contrôle fiscal dans cette société, il faut qu'on vérifie que la redevance, puisqu'on n'a pas les moyens de réformer individuellement le crédit impôt recherche, il faut au moins qu'on s'assure que le prix qui est payé est un juste prix, si j'ose dire. Comment on va faire? On va essayer de trouver des termes de comparaison. Là, par exemple, sur la recherche, quand vous n'en avez pas de termes de comparaison, c'est très dur pour nous de dire le prix a été manipulé à la hausse de telle sorte qu'il y a un transfert de bénéfices. Et le raisonnement est valable pour l'ensemble des prix de transfert. Il est très dur pour nous de démontrer qu'il y a un transfert de bénéfices illégal. Pourtant, tous les ans, il y a des dizaines de cas de redressement, mais des dizaines, sur probablement des milliers ou des dizaines de milliers de pratiques. Voilà. Ça veut donc dire qu'on a notamment un service à la DVNI, la Direction des vérifications nationales et internationales, où il y a des vrais experts dans le domaine. Tout simplement, ils ne sont pas assez nombreux. Et ils ne sont pas assez alimentés en termes d'information, en termes de détection de la part des autres services. Voilà.
Michel.
Oui, je
pense qu'un inspecteur des impôts, des finances publiques, est quelqu'un qui rapporte. Pourquoi il n'y en a pas plus? Tout à l'heure, vous avez cité 10 milliards. Compte tenu en gros du coût d'un inspecteur, ça fait 50 000 personnes. Je ne pense pas qu'il y ait 50 000 inspecteurs des impôts.
Vincent,
sur les changements d'entité, je ne peux que spéculer parce que je n'ai pas d'infos précises en la matière. Généralement, enfin, quand il y a le changement d'entité, ça veut donc dire restructuration, ça veut donc dire, s'il y a restructuration, ça veut dire que probablement la planification financière et fiscale a changé. Voilà. Donc j'en resterai une considération assez vague en la matière, mais j'imagine que c'est ça. Mais je n'ai pas d'infos précises en la matière, donc, mais j'imagine que ça ne se fait pas sans intérêt. Sur les passerelles, alors elles existent, il y a des échanges, alors il y a des échanges d'informations qui en réalité sont surtout des transferts d'informations de la Direction générale des finances publiques vers les URSSAF. Il y en a plusieurs milliers par an, ça a eu tendance à augmenter au cours de ces dernières années. Je m'arrête un instant là-dessus parce que c'est vrai qu'en France, le système fiscal social, avec les budgets séparés, les systèmes de contrôle séparés, fait que parfois on peut se retrouver sur des champs communs. Alors le travail au noir, le travail non déclaré, alors je ne parle pas du petit billet ici ou là qui circule, hein, je parle dans le bâtiment, ce qui est organisé, etc., y compris qui utilise la misère sociale, le travail non déclaré a des répercussions en termes de manque à gagner sur les cotisations sociales et de manque à gagner en termes d'impôt sur le revenu. Puis souvent, quand on arrive sur ce type de situation, on a la fraude de la TVA, l'IS, enfin bon, c'est assez complexe. Donc il est nécessaire d'avoir des mécanismes de coopération. C'est ce qui avait d'ailleurs présidé à la création en 2008 de la délégation nationale à la lutte contre la fraude, qui était censée un peu superviser tout ça. Donc il y a des échanges d'informations, mais il n'y a pas encore de corps commun. Pourtant, on sait que des services comme l'ADNEF, la Direction nationale des enquêtes fiscales, travaillent également là-dessus. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'échange d'informations. Et le travail non déclaré est particulièrement coûteux. Je disais, le fraude de cotisation sociale, c'est 15 à 20 milliards d'euros de manque à gagner, une bonne part qui provient du travail non déclaré. Donc oui, ça existe. Je n'ai pas là les derniers chiffres, mais on est sur plusieurs milliers d'informations envoyées de nos services vers les URSSAF. Par contre, il y a une inconnue, c'est ce qu'on reçoit, nous, des URSSAF. Et à ma connaissance, il n'y a pas de stats qui existent. Je sais qu'on reçoit des informations, mais je ne sais pas si au petit bonheur la chance, si c'est organisé. Vous voyez, on a eu beau chercher dans notre rapport d'activité de la Direction générale des finances publiques, au niveau de la DNLF, du Parlement, on n'a pas vu le retour des URSSAF. Alors que là aussi, il faudrait un meilleur échange. Sur le crédit impôt recherche, on n'a pas d'évaluation précise sur l'utilisation du brevet en France et les recettes que ça dégagerait en France. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que si l'assiette de l'impôt du crédit impôt recherche était changée, on gagnerait à la fois sur les recettes et on ne perdrait pas sur les redevances payées à l'étranger. Donc, moi, j'ai ciblé mon propos là-dessus pour dire qu'on devrait faire comme en Allemagne, où le crédit impôt, il y a un équivalent qui existe, mais où le brevet doit être utilisé, je crois, pendant 5 ans sur le territoire, en Allemagne, pour qu'au moins il y ait un retour sur investissement. Parce qu'il faut déconnecter les deux, si vous voulez. On donne de l'argent public pour une recherche, puis ensuite les redevances nous échappent, et puis parallèlement il y a des recettes. Et dans d'autres pays, on donne de l'argent, mais il y a un retour, et en plus il y a les recettes sur l'utilisation, enfin l'activité économique générée par l'utilisation du brevet. Mais
la question est plus que ça. C'est que pour qu'il y ait la redevance, les recettes dans d'autres pays, il y a des recettes, des millions et des millions. Donc là, vous avez une recette immédiate, alors c'est pas que je ne sais pas la fiscalité. Si le brevet va coûter tous les ans au pays, ça veut dire qu'il a rapporté énormément le jour où on a cédé. Quand on cède un brevet sur une molécule, la mort ici, c'est des millions.
Oui.
Quand on a un brevet sur un métal spécial et on le vend à l'étranger, oui.
Alors, de deux choses l'une. Soit il est vendu à prix minoré, soit on se retrouve avec des techniques du style sandwich irlandais qui fait intervenir des sociétés en Irlande, en Hollande, etc., où vous arrivez à éponger le paiement d'une plus-value, par exemple. Donc voilà, alors après, vous avez plusieurs schémas. Mais là aussi, de toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'il faudrait voir, c'est l'articulation entre plus-value potentielle et la redevance réelle, c'est-à-dire ce qui devrait être réellement payé au titre de la redevance. Parce que dans le schéma que j'évoque, régulièrement, ce qu'on a, c'est une intuition, parfois même des preuves, que la redevance est largement excessive. Et là, on a une manipulation du prix de transfert. Mais je n'ai pas de stats chiffrés, mais moi, je pensais que c'était effectivement sur le recette dégagée en France, parce que ça génère des recettes en France. Alors, malheureusement, pas assez au regard de l'assiette du crédit impôt recherche. Sur les prix de transfert, alors, c'est sûr, ça rejoint les propositions qu'on devrait faire au niveau de l'Union européenne, qui sont les suivantes. C'est-à-dire que je fais pas un aparté, mais ça rejoint la question. Comme on n'a pas de système harmonisé au niveau de l'Union européenne, on a quelques règles communes en matière de TVA, il y a des règles communes. On ne doit pas traiter différemment tel ou tel ressortissant à partir du moment où on est au sein de l'Union européenne, mais on n'a pas d'harmonisation fiscale. Donc, puis, il faut dire, on a 27 systèmes fiscaux différents. Mais nous, ce qu'on avait proposé, c'était l'instauration d'un serpent fiscal européen. C'est un peu à l'image du serpent monétaire. C'est limiter les écarts entre les systèmes fiscaux et progressivement les harmoniser. Et une des propositions phares, c'est d'avoir les mêmes règles en matière d'impôt sur les sociétés. Donc c'est la base commune consolidée de l'impôt sur les sociétés qui vient d'être évoquée. Ça voudrait dire, en théorie, que chaque société établie au sein de l'Union européenne déterminerait son bénéfice imposable selon les mêmes règles, qu'elles soient maintenant en Croatie, parce que voilà, c'est le 28e État, en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, etc. Si on faisait ça, et j'y reviendrai après, il y a un système qui commence à prendre le bout de son nez, si on faisait ça, ça neutraliserait les prix de transfert au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire que tout ce dont je vous parle tout à l'heure serait totalement neutralisé, puisque ce seraient les mêmes règles partout. Bon, alors, je le fais de manière très simple, mais ça suppose aussi d'avoir les mêmes règles en matière de provision, d'amortissement, etc. C'est quelque chose d'assez compliqué. Mais il y a un travail technique très intéressant qui a été mené au niveau de la Commission européenne, qui a créé ce régime-là. Ça s'appelle l'ACIS, l'assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés. Mais sauf qu'elle n'a pas rendu ce régime obligatoire, elle l'a rendu optionnel. Ce qui veut donc dire que n'opteront pour ce régime que les sociétés qui y auront intérêt. Et ce qui est dommage, c'est une occasion loupée, mais il faut continuer le combat là-dessus, puisqu'il faudrait rendre l'ACIS obligatoire et instaurer tout de suite un impôt sur les sociétés européens pour alimenter le budget et pour, au minimum, neutraliser la concurrence fiscale. Il faudrait même la sortir d'un engagement des États de ne plus diminuer leur taux d'impôt sur les sociétés. Bon. Et ça, c'est parfaitement faisable. Si on recalcule les taux d'impôt sur les sociétés sur la base de l'ACIS, il suffit de dire maintenant, plus personne ne bouge là-dessus et on crée un petit surplus qui est un impôt sur les sociétés européens. Donc ça, c'est une proposition qu'Attac a portée, que nous, on porte de longue date, qui n'est pas assez connue parce qu'elle est assez technique, mais il y a eu un travail du Parlement européen très intéressant là-dessus. Parce que parfois, les parlementaires européens n'ont pas que des mauvaises idées. Malheureusement, ça a été réduit optionnel. Donc ça veut dire, là aussi, c'est comme pour les îles Caïmans, que techniquement, c'est possible, puisque ça existe, sauf que politiquement, on n'a pas voulu le rendre obligatoire et on n'a pas voulu la sortir d'un taux minimum. Enfin, sur les effectifs rentables, oui, alors j'allais dire, je bois du petit lait, c'est facile pour moi, il y a, au sein de la Direction Générale des Finances Publiques, il y a 5000 vérificateurs. Il y a 6000 autres agents qui s'occupent du contrôle fiscal dans la sphère de la recherche, c'est-à-dire la détection de la fraude, du contrôle du bureau, sur ce qu'on appelle le contrôle sur pièce, etc. Donc on est à entre 11 et 12 000 équivalents temps plein là-dessus. Et puis par ailleurs, on a il y a 115 000 collègues, mais qui s'occupent aussi bien de la dépense publique, l'accueil, les domaines, le cadastre, enfin il y a le contentieux, il y a 1000 métiers au sein de la Direction générale des finances publiques, enfin 1000, j'exagère, mais à peine. Mais sur la partie contrôle fiscal, on est aux environs de 12 000. Donc on a toujours dit, nous, au pouvoir public, si vous dégagez des gains de productivité, vous voyez, je vous employe en tant que syndicaliste de Bercy le gros mot, si vous dégagez des gains de productivité parce que vous allez informatiser tel ou tel service, alors redistribuer, réorienter ces gains de productivité vers les missions dites à haute valeur ajoutée, l'expertise, la détection de la fraude, puis aussi pour la partie collectivité locale, parce qu'on a une grosse partie collectivité locale avec la gestion des actifs pourris, etc. Enfin, il y a matière aussi à dire. Mais sur la partie contrôle, on avait dit l'expertise, la détection de la fraude et le contrôle fiscal. Puis, en bout de chaîne, le recouvrement. On a toujours eu une écoute polie. Mais on a perdu 30 000 emplois depuis 2002. Et alors, 2002, c'est que, alors, de mémoire, il y avait une élection présidentielle à ce moment-là, et le ministre de l'économie s'appelait à l'époque Fabius, enfin, le sortant, le sorti aussi, du coup. Et avant 2002, il disait que les agents des impôts étaient socialement utiles et budgétairement rentables. Bon, on rappelle souvent, notamment depuis 2012, cette parole au gouvernement en place. Mais sans succès pour l'instant, il faut bien l'admettre. Pardon. Pourquoi ? Parce que depuis, s'est imposé le dogme de la réduction de fonctionnaires comme l'emblème et l'alpha et l'oméga de la réduction de la dépense publique. Et alors, aujourd'hui, ce qu'on entend depuis, je refais un petit peu, mais ce qu'on entend depuis une dizaine d'années, c'est qu'il faut réduire la dépense publique, donc il faut réduire le nombre de fonctionnaires, et puis on va quand même taper sur les métiers pas trop populaires, donc merci. Et nos ministres nous ont toujours dit, nous on doit être exemplaires, la main sur le cœur, donc il faut en faire plus qu'ailleurs. D'ailleurs, pendant les RGPP, par exemple, vous savez que Nicolas Sarkozy disait qu'il faut ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux à la retraite, nous on aurait bien voulu, on en a perdu deux sur trois. par exemple. Voilà. Quand je dis on aurait bien voulu, comprenez l'ironie, mais il a toujours fallu faire plus qu'ailleurs. Et en plus de cela, quand on regarde dans le détail, on a supprimé des emplois qui étaient à l'accueil, à la détection de la fraude, je disais, dans le renseignement collectivité locale, donc des missions qui ont explosé en termes de charge de travail, hein, ce qui est totalement débile, il n'y a pas d'autre terme. Et donc on nous a dit ça, et dans le débat public, qu'est-ce qu'on entendait? On disait, oh, grâce à l'informatisation, grâce à la télédéclaration, on peut supprimer des emplois à Bercy. Michel Sapin, en janvier 2012, lorsqu'il a fallu qu'il justifie sur je ne sais pas trop quelle chaîne les 60 000 emplois, tout en maintenant la stabilisation d'une. Enfin, 60 000 emplois, pardon, 60 000 créations dans l'éducation nationale avec la stabilisation du nombre de fonctionnaires, il avait dit eh ben pour créer ici, on en supprimera ailleurs, par exemple à Bercy, grâce à la télédéclaration. Il se trouve que le lendemain, il avait la chance de nous voir parce qu'on demandait des auditions aux représentants des candidats. Donc on lui est tombé dessus à bras raccourcis en disant vous, en tant que ancien ministre de l'économie, vous n'avez pas le droit de dire ça. Et lui nous dit, les yeux dans les yeux, oui, mais parce que dans l'idée populaire, c'est ce qui est paru. C'est ce qui est passé. Donc on dit vous entretenez une idée fausse, et je vous le démontre chiffre en main. La télédéclaration a représenté. Nous, on conteste l'idée de gain de productivité parce qu'en réalité, pour le collègue qui reçoit la télédéclaration ou qui doit saisir, c'est quelques secondes. Mais enfin bon. Admettons, l'inspection générale des finances, qui est toujours très volontariste hein, pour dégager des gains de productivité, elle a estimé que 1 million de télédéclarants, c'était 65 emplois en moins. Donc ça veut dire qu'on aurait dû perdre moins de 1000 emplois depuis 2002, on en a perdu 30 000, faites le calcul. Dans le même temps, le nombre de personnes renseignées à l'accueil, c'est plus 30%. Le nombre de dossiers en matière d'impôt sur les sociétés, c'est plus 40%. Le nombre de dossiers à la TVA, c'est plus 50%. Le nombre de dossiers à l'impôt sur le revenu, c'est plus 11%, et j'en passe. Donc, c'est un dialogue de sourds, parce qu'on avance la vérité des chiffres, c'est leurs chiffres, et ils nous disent, on va simplifier, on va... Voilà. Donc, c'est simplement des idées fausses populistes.
Est-ce qu'on ne serait pas obligé de revoir tout à la baisse en France?
Allez, à toi, Vincent. Non, attends, pose ta question, oui.
Oui, c'était... Bon, je sais que c'est un effet médiatique qui fait un effet de groupe. Les grandes affaires de construction pour la France fiscale, c'est aujourd'hui surtout des gens de l'intérieur qui ont vendu un fichier ou donné un fichier informatique, etc. Je pense à la HSBC, HSBC, etc. Et ma question est un peu double. Est-ce que la direction des impôts essaye de créer des vocations dans certaines entreprises, autrement dit de convaincre des informaticiens ou autres de transférer des données aux services fiscaux?
Quelle rémunération?
Oui, Vincent.
Je vais commencer par là pour dire que... Oui, alors voilà.
On peut les provoquer. Je ne veux pas dire de faire des secrets, mais
c'est les rémunérer.
Alors, non, il y a plusieurs choses. Oui. Par rapport notamment à l'affaire HSBC qui a fait l'une de l'actualité encore hier, puis qui va continuer. C'est vrai que, historiquement, là, en 2009 notamment, 2008 en réalité, la France et l'Allemagne n'ont pas eu la même politique. Angela Merkel a par exemple délibérément assumé l'idée qu'elle allait payer quelqu'un pour avoir des fichiers. En France, c'était un peu plus honteux parce qu'on a du mal avec la dénonciation payée, d'autant plus que au moment où ça se négociait, Nicolas Sarkozy, quelques mois avant, avait dit « Fini les dénonciations au fisc, etc. » Donc il y avait une forme de schizophrénie. Et donc nous, on a récupéré un fichier. On ne saura jamais si... moi, je ne sais pas, et je n'ai même pas d'idée sur la question, on ne saura jamais si cette personne aura été rémunérée ou pas. Bon. Simplement, en tout cas, ça fait du bruit. Et on sait que l'Allemagne a rémunéré des informateurs. Donc évidemment, ensuite... Une fois que politiquement des États se sont avancés, s'il y a des potentiels informateurs, ils vont aller plutôt vers ceux qui vont les payer. Sachant que de toute façon, dans le cadre de la coopération, si on va voir l'Allemagne, il y a de fortes chances que la France soit au courant derrière. Bon. Donc, comme c'est une affaire secrète, par définition, elle n'est pas connue. Et franchement, je vous le dis comme ça, mais je n'ai pas d'idée sur la question de savoir si elle a été payée ou pas. Ce que je sais, c'est que dans la loi antifraude de l'année dernière, on a officialisé le statut des lanceurs d'alerte. Donc, en clair, ce sont eux. Ce qui est un débat qui revient sous une autre forme et qui avait disparu de mémoire pour la partie fiscale en 2004-2005, alors qu'un certain Nicolas Sarkozy était ministre de l'économie et des finances et avait supprimé la rémunération de ce qu'on appelait les aviseurs. Les aviseurs, c'est ceux qui nous avisaient dans le cas de fraude. Il y avait à l'époque une rémunération possible. La rémunération a sauté, pour autant les aviseurs ont continué à venir. C'est intéressant à noter. Quoi, la motivation n'est pas toujours le fric, ça peut être la jalousie, la vengeance, il peut y avoir d'autres choses. Le remords, c'est arrivé aussi quelquefois. Alors c'est mieux, le remords, parfois quand il est récompensé, vous me direz, c'est peut-être mieux. En tout cas, la Direction générale des finances publiques, elle ne paye pas. Ce qui ne veut pas dire que globalement, les pouvoirs publics ne payent pas, sur les cas sensibles. Mais là, il faudrait demander à Manuel Valls ce qu'il en pense. Parce que je pense que si les pouvoirs publics payent, c'est plutôt du côté de l'intérieur qu'il faut regarder. Voilà. Alors je reviens à concurrence fiscale. Oui, c'est vrai que, pardonnez-moi, j'ai vraiment la crève. Que j'évoquais tout à l'heure, c'est que nous, on n'est pas naïfs, on se dit que à partir du moment où on fait un constat qui est assez partagé, qu'on peut prouver que mathématiquement, les fonctionnaires sont socialement utiles, budgétairement rentables, à partir du moment où en plus on a un problème de justice fiscale et de finances publiques, on a toutes les raisons de se dire, après tout, créons des emplois dans la sphère du contrôle fiscal. Pourtant, c'est l'inverse qui se passe. Alors les ministres vous diront non, c'est pas vrai, je creuse un peu cette question. L'ancien ministre du budget, Eric Woerth, ou Barouin, ou encore Pécresse, vous dirait, on a préservé les effectifs du contrôle fiscal. Ce qui est faux. Là, eux, ils ont stabilisé le nombre de vérificateurs, les 5000 dont je vous parlais. Par contre, sur les autres métiers du contrôle fiscal, ils ont sabré. Là, les parties desquelles on a supprimé environ 2000 postes depuis le milieu des années 2000. Donc, déjà, ça, c'est faux. Et puis, dernièrement, on nous dit, on a créé 50 emplois. Nous, ça nous fait rigoler, parce que 50 emplois, quand on en supprime 30 000 en 12 ans, bon... alors 30 000, certes, pas que dans la sphère du contrôle fiscal, hein, dans tous les métiers de la Direction générale des finances publiques, soyons honnêtes. Mais on crée 50 emplois dans les directions nationales, et tant mieux pour elles, très bien, mais ça veut dire qu'on a dégarni ailleurs, c'est bien ça le problème. Or, la lutte contre la fraude, elle doit être globale, c'est-à-dire que nos collègues dans les directions nationales ou interrégionales ou départementales du contrôle fiscal sont alimentés par d'autres services qui, eux, subissent des suppressions d'emplois. Donc, à partir du moment où on touche à cette chaîne de travail, partir du moment où on fragilise un maillon, c'est toute la chaîne qui est fragilisée. Bon, donc voilà. Et ce qui est vrai, c'est que on se dit que s'ils ne l'ont pas fait, alors c'est peut-être qu'ils ne voulaient pas que le contrôle fiscal soit trop efficace en France par rapport à ce qu'il a à l'étranger. Et de fait, oui, c'est vrai, il y a une concurrence fiscale qui se fait sur les taux d'imposition, qui se fait également, ça rejoindra votre question sur les mécanismes dérogatoires, les niches fiscales. En France, on a maintenu des taux relativement élevés, mais on a truffé le système de niches fiscales, ce qui fait qu'on l'a totalement perverti et complexifié, puis en plus rendu voilà, totalement injuste et incompréhensible. De manière légale, effectivement. Donc, dans certains États, comme en Allemagne, ils ont fait l'inverse. Ils ont baissé le taux d'impôt sur les sociétés. Par contre, ils ont supprimé un certain nombre d'amortissements, de provisions, etc. En France, on a fait l'inverse. Dans tous les États, il y a eu une course au moins 10 ans fiscale sur l'impôt sur les sociétés, sur l'impôt sur le patrimoine et l'impôt sur le revenu. Pourquoi ? Parce qu'il fallait attirer les gros patrimoines, les gros revenus et les sociétés, ou les retenir. Donc on est passé par plusieurs techniques, y compris l'optimisation, qu'on a totalement légalisée, c'est vrai. Et on a aussi affaibli les pouvoirs publics dans leur capacité de détecter la fraude, et c'est vrai aussi. Et donc c'est une des autres formes méconnues de la concurrence fiscale. Voilà. Donc ça nous mène à la situation où on est aujourd'hui. Alors, sur la remise à plat, combien de fonctionnaires ? Alors, quand j'ai entendu fonctionnaires dégagés, je dis, oh, je pense encore beaucoup, il y en aura dégagés, mais par l'extérieur. Eh bien, ça va dépendre de la remise à plat. Parce que ce qu'on entend aujourd'hui nous inquiète. Déjà parce qu'il y a un cadre avec le pacte de responsabilité, réduction de la dépense publique, on voit le truc venir gros comme une maison, ça va tomber encore une fois sur Bercy. Et on sort d'une réunion avec le directeur général des finances publiques ce matin qui ne nous a pas spécialement rassuré là-dessus. Parce que la question a été évoquée, il n'a rien dit. Et au-delà de ça, on voit qu'encore les idées fausses perdurent. J'en prends une, la retenue à la source. Alors vous allez me dire, il va être contre la retenue à la source parce qu'il défend ses emplois à Bercy. Mais je veux dire, franchement, si j'abordais la question de la retenue à la source que par le prisme des emplois, je demanderais vite la retenue à la source. Parce que pour gérer un système aussi complexe et merdique, il nous faudrait des milliers de fonctionnaires en plus. Mais dans l'esprit de nos gouvernants, la retenue à la source permettrait de dégager des emplois, mais au sens d'en supprimer. Alors on a un combat là-dessus à mener parce que, nous, ce qu'on dit, c'est une analyse qui a été partagée par la Cour des comptes d'ailleurs, donc pour une fois qu'elle dit des choses intéressantes, on ne va pas se priver. La Cour des comptes dit la chose suivante, on a un taux de recouvrement en France qui est très élevé, plus élevé que dans la plupart des pays qui pratiquent la retenue à la source. Donc il n'y a pas de progrès à attendre de ce point de vue-là ou en matière de lutte contre la fraude. Tout simplement parce que la retenue à la source, elle concernerait les salariés, les retraités, beaucoup, qui de toute façon ne peuvent pas frauder sans se faire piquer. Ensuite, la retenue à la source, de deux choses une. Soit on vous prélève sur votre fiche de paye le même taux toute l'année. Mais ça veut dire que l'année qui suit, en fonction de vos changements de situation dans le quotient familial ou dans les niches fiscales, ou dans vos revenus, eh bien, il va y avoir des régularisations à la hausse ou à la baisse. De deux choses une. Soit vous n'allez pas beaucoup payer, par contre l'année d'après, ça va être l'assommoir. Ou alors vous allez payer trop pendant une année, et vous allez certes recevoir un chèque l'année d'après, mais sur de l'argent que vous auriez pu déjà avoir, dont vous auriez pu avoir à disposition l'année qui précède. Donc ça, c'est le système bête et aveugle. Ensuite, il y a un système un peu plus peaufiné qui correspond à ce qu'on peut imaginer de la retenue à la source, qui est qu'on a un taux individualisé. Voilà, un taux individualisé au sens où, dès qu'on a un changement de situation, je passe au chômage, eh ben, on ajuste mon taux à la baisse pour tenir compte de la réalité du moment. Sauf que ça, c'est une gestion très complexe. Ça veut dire que vous, en tant que contribuable, dès que vous avez un changement de situation, vous devez venir nous voir. C'est pour ça que ça nous demanderait plus de travail, donc plus d'emplois. Qu'on recalcule votre impôt, communique à l'employeur, ça lui ferait aussi plus de boulot, pour ensuite ajuster ce qu'il retient sur la fiche de paye. Vous imaginez l'usine à gaz. Voilà. Donc voilà, on en est là. Et aujourd'hui, ce qu'on dit nous, c'est que non seulement... Il n'y a pas de système unique de retenue à la source. Il y a plusieurs systèmes de retenue à la source, certains avec des cartes. Merci, c'est gentil. Ça c'est la redistribution, j'apprécie beaucoup. Ils ont une carte de mémoire en Belgique également, en Allemagne, mais ils ont une actualisation qui n'est pas nécessairement mensuelle, mais l'impact est moindre parce qu'ils n'ont pas de quotient familial, par exemple, ce qui fait que quand ils ont une naissance ou quelque chose comme ça, quand il y a une individualisation de l'impôt, l'impact est moindre. Quand il y a monnaie fiscale et pas de quotient familial, pas de quotient conjugal, l'impact est moindre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Et d'ailleurs, en Belgique, il y a quelques années, ils avaient eu un souci sur le retour de la source parce que tous les employeurs n'avaient pas reversé au trésor public l'impôt dû. C'est aussi un des risques de la retenue à la source. Bref, je reviens sur la remise à plat. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est ben voilà, il faudrait remettre à plat la fiscalité, après tout, très bien, on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Dès qu'on nous dit la retenue à la source, on dit voilà, il ne faut surtout pas la charrue avant les bœufs. Attaquons-nous d'abord à l'assiette de l'impôt sur le revenu, aux niches, au régime dérogatoire. Essayons de voir quel doit être l'équilibre entre l'impôt des particuliers et des sociétés. Voyons la fiscalité du patrimoine qui mérite d'être réécrite et la fiscalité locale de la même manière. Et là, quand on a vu Héro là-dessus, il nous dit oui, tout est sur la table. Mais enfin, bon, on voit bien qu'il y a d'autres priorités. Les priorités, elles ont été annoncées par Hollande. C'est comment on baisse les prélèvements sur les entreprises. Voilà, la remise à plat, ça va être ça. Ce qui rejoint la question de la concurrence fiscale qu'on abordait précédemment. Sur l'Europe, et je finirai par les cas sensibles, ce qui est vrai, c'est que si aujourd'hui, d'ailleurs on a un peu révisé notre position là-dessus, si aujourd'hui on disait on va faire une harmonisation fiscale sur la base, par exemple, d'une majorité qualifiée et non plus à l'unanimité comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, on risquerait fort de nous imposer un système très libéral et effectivement avec un système encore plus injuste qu'il existe aujourd'hui. Ce qu'on propose, nous, c'est deux choses. En fait. C'est d'avancer simultanément sur deux fronts. Alors, il y a quelques députés européens qui sont sensibles à la question. Donc, on est vraiment au tout début du processus. C'est déjà de développer la notion de coopération renforcée. Ça permet déjà de choisir ses partenaires. Et si à 8-9, on avance, même si ce n'est pas sur tous les chantiers de l'harmonisation, si c'est sur certains chantiers, ça peut déjà faire quelque chose. Surtout s'il y a, par exemple, la France et l'Allemagne. La France et l'Allemagne, sur quelques gros chantiers, comme l'impôt sur les sociétés ou la fiscalité de l'épargne, ça modifierait déjà le paysage. Ça, c'est le premier truc. Et ensuite, il faut avancer sur plusieurs chantiers fiscaux en même temps. Parce qu'il y a nécessairement des gagnants et des perdants et une harmonisation. Donc, idéalement, là aussi, si on dit, bien voilà, on va essayer de rééquilibrer la fiscalité entre les sociétés et les particuliers, par exemple, d'utiliser l'assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés, de mettre ça en place, ça opérerait des redistributions. Et peut-être que, je reprends la France et l'Allemagne, peut-être que l'Allemagne n'y aurait pas trop intérêt, ou la France, ou certaines entreprises en France, etc. Donc il faut avancer là-dessus, mais aussi sur d'autres impôts, pour que chaque État puisse faire un effort et avancer sur plusieurs chantiers en même temps. En clair, il faudrait un espèce de paquet fiscal européen sur plusieurs chantiers. Et ça serait, dans le cas d'une coopération renforcée, on peut l'imaginer, mais il ne faut pas s'interdire de rêver à des dispositifs qui, plus ou moins ciblés, qui se mettraient en œuvre au niveau de l'Union européenne elle-même. En ce moment, il y a par exemple la révision de la directive sur la fiscalité de l'épargne qui est en cours de discussion. Donc c'est quoi ? C'est faire en sorte que tous les revenus de l'épargne, et pas simplement certains comme c'est le cas aujourd'hui, hein, des particuliers comme des entreprises, fassent l'objet d'échanges automatiques d'informations. Une société ou un particulier établi en France, eh bien, l'administration fiscale française doit avoir connaissance des revenus de l'épargne, de son épargne logée dans les autres pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, il y a une directive qui existe, mais qui ne concerne que certains produits d'épargne et que les particuliers. Aujourd'hui, mais il y a une proposition de révision qui propose d'élargir. Ça, c'est intéressant. Il y a une pression politique sur l'Autriche, par exemple, qui ne veut pas jouer le jeu, et sur des États comme le Luxembourg. Et s'il y a une pression politique, ça peut se mettre en place. Donc l'harmonisation ne se fera pas comme ça. Elle se fera chantier par chantier. Donc on peut avancer sur le chantier de la fiscalité de l'épargne, par exemple, pour les 27, enfin maintenant les 28. Et puis par ailleurs, dire, bon, ben, sur d'autres chantiers, ben, c'est un groupe d'États va choisir d'aller plus loin, avec une coopération renforcée. Enfin, pour conclure, normalement, je n'ai pas le droit de citer les contribuables célèbres, etc. Mais il y a des schémas de fraude assez connus, notamment celui qui vient d'être évoqué, c'est passe par les trusts. Alors oui, parce que les trusts ne sont pas illégaux. Alors simplement, le trust est une conception anglo-saxonne de la propriété. Alors qu'en France, on aime bien les il y a un propriétaire à tout bien. Et même quand on sépare, à un moment donné, sur les biens meubles, on a en matière de meubles possession vos titres. Dans le droit anglo-saxon, c'est différent. La propriété peut être en apesanteur. Hein, je le fais comme ça parce que c'est un peu ça. Les trusts, c'est quoi ? C'est on a essayé de digérer ça avec les trusts révocables ou irrévocables en France. Mais c'est, je reprends l'exemple, je vais passer un contrat, parce qu'un trust est d'abord un contrat, avec, par exemple, un avocat qui est payé par une société domiciliée aux îles Jersey, parce que c'est une des grandes spécialités des îles Jersey, qui va gérer le bien, donc percevoir les fruits d'un placement, par exemple, au bénéfice d'un tiers. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un de ma famille, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Et le problème qu'on a en France, c'est d'avoir la connaissance du bénéficiaire effectif des trusts pour pouvoir imposer à l'ISF, à l'impôt sur le revenu. Alors, ce qu'on a essayé de dire, c'est qu'il y a des trusts révocables, c'est-à-dire que je passe ce contrat, mais je me réserve le droit de retour, si j'ose dire. Donc je suis le propriétaire affectif des biens, donc c'est moi qui supporte la charge de l'imposition. Mais le problème, c'est que quand on est en face d'un trust irrévocable et qu'on ne sait pas au bénéfice de qui les biens sont gérés. Voilà. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des avocats qui gèrent des biens, par exemple des tableaux de maîtres qui sont situés en Suisse. Voilà, donc c'est ça qu'il faut voir ensuite. Logés en France, pas logés, mais comment dire, un avocat établi en France ou dans le Jersey, peu importe, va gérer du patrimoine qui est logé, qui peut être logé physiquement, par exemple des immeubles à Paris, parce qu'il y a eu le cas, des tableaux de maîtres ou d'autres biens immobiliers ailleurs, et les administrations fiscales ne savent pas au bénéfice de qui c'est géré. Voilà. Donc on se retrouve en face de ça, et le problème qu'on a, nous, c'est de prouver le bénéficiaire effectif, et c'est dans le cas évoqué, c'est bien ça, c'est que le fait d'avoir une dénonciation ne suffit pas. Il faut qu'on, nous, on arrive à remonter la chaîne de la propriété pour bien établir le propriétaire effectif et donc asseoir l'impôt.
Dans ce cas-là, il y avait aussi une fraude au droit de succession.
Ah oui.
Et ben, c'est quel pourcentage? Parce que ça n'a pas une valeur. Est-ce que la fraude au droit de succession est
importante? Oui, parce que...
Parce que les trusts, ça permet ça aussi.
Ah ben ça permet d'échapper à l'ISF, à l'impôt sur le revenu, au droit de succession, etc.
Mais est-ce qu'il y a beaucoup de fraude? Est-ce que ça a été chiffré, ce montant de fraude dans les 60 milliards?
Alors, on a décortiqué, je regarde, mais il n'y a pas de... Sur les droits de mutation à titre gratuit, parce qu'on a donation et succession en même temps, il n'y a pas d'évaluation précise, il y a une fourchette sur l'ensemble des droits d'enregistrement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut repartir de la façon dont est géré un patrimoine, quand on est dans des classes hyper riches, parce que c'est un scoop, hein. Il y a des classes, hein, encore, pas un gros mot. D'ailleurs, Warren Buffett l'a bien dit, hein. Il y a bien une classe de riches, elle est en train de gagner, hein, c'est bien ça l'idée. Enfin, il y a bien une lutte des classes, et c'est ma classe qui est en train de gagner. Lorsqu'on hérite d'un gros patrimoine qu'il faut gérer tout au long de la vie, on prépare déjà sa succession, j'allais dire, dès qu'on est. Enfin, je schématise, mais c'est un peu ça. Ça veut dire qu'il faut utiliser toutes les possibilités du droit civil et du droit fiscal pour démembrer la propriété, la recréer, et pour transmettre du patrimoine en franchise d'impôt. C'est pour ça que sont utilisés les délais de prescription en matière de donation, par exemple. C'est pour ça que la loi TEPA, une des dispositions les plus scandaleuses, c'était pas nécessairement le seul bouclier fiscal, c'était l'abattement en matière de droit de donation aux successions, parce qu'on pouvait transmettre 150 000 euros. Enfin, chaque parent pouvait transmettre à chacun de ses enfants 150 000 euros tous les 6 ans. Depuis, ça a été un petit peu durci, mais donc il y a déjà toutes les possibilités légales, hein, forme d'optimisation, de transmettre du patrimoine en franchise d'impôt. Donc, mais la vision est toujours globale. C'est à la fois une vraie gestion patrimoniale, c'est quel va être le patrimoine qui va me rapporter le plus et me coûter le moins. Je fais court, c'est ça. Donc, déplacement qui rapporte, mais une gestion de la propriété et de la transmission de la propriété qui me permet de payer le moins d'impôts sur les donations et successions et une défiscalisation qui me permet d'éviter de payer moins l'ISF, parce qu'il y a des niches fiscales à l'ISF ou l'impôt sur le revenu. Et dans la gestion patrimoniale, vous pouvez avoir cette espèce de propriété en avesanteur ou démembrement de propriété par les trusts pour... les fraudeurs de haut vol. Je le fais schématiquement, mais c'est ça.
Vous parlez de transmission d'informations, mais pourquoi on n'oblige pas tous ces cabinets d'avocats fiscalistes spécialisés dans l'optimisation à transférer leurs dossiers?
Ben, c'est-à-dire que quand on débarque en contrôle fiscal, ils sont tenus quand même de nous communiquer les informations. Mais ils ne nous les communiquent pas automatiquement. Voilà. Non, normalement, ils sont censés faire état de leurs soupçons à Tracfin lorsqu'ils supposent un blanchiment de fraude fiscale. Normalement. Après, il faut prouver la faute éventuellement, c'est là que c'est compliqué. Alors là, pour l'instant, le rapport de force, il est plutôt inversé, parce que le lobby des avocats a failli obtenir une mesure, dans le cadre de la loi de finances l'année dernière, enfin votée là, fin 2013, ils ont failli obtenir qu'on ne puisse plus perquisitionner chez eux. Ça voudrait dire qu'il suffit de loger tous les dossiers chez les avocats et c'est fini, on ne peut plus lutter contre la fraude. Pour vous dire le poids des lobbies et face à quoi on est. Mais c'est vrai qu'après, il y aura... Alors après, je ne suis pas juriste, enfin juriste, mais on a peut-être un problème de liberté publique sur l'échange automatique d'informations. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ça mériterait un petit bilan de Tracfin quand même sur les avocats qui transmettent les informations ou qui ne les transmettent pas, ne serait-ce qu'au regard du contrôle fiscal, par exemple. Et là, pour l'instant, moi, je n'ai pas ce bilan-là, parce qu'ils évaluent en grande masse les transmissions d'informations, mais c'est tous les avocats, par exemple, il n'y a pas de catégorie avocat fiscaliste ou conseil.
Les grands groupes, ils ont eux-mêmes des 50, 60, 100 personnes, qui s'occupent déjà de ça et qui transmettent après. Donc, et en plus, ils ont un contrôle tous les 30 ans. Donc, pas pour eux. Et effectivement, la petite boîte, elle est contrôlée, elle a une chance tous les 5 ans.
Alors, c'est un peu plus compliqué. Ce qui est vrai que les grands groupes, ils ont des armées de conseillers, bon, directeurs d'administration financière, des avocats, fiscalistes, etc. Plus le groupe est gros, plus il y a une spécialisation des conseils. Ce qui rend d'ailleurs le contrôle fiscal un peu ardu, parce que ça veut dire qu'on arrive et on a toujours plusieurs spécialistes très pointus en face. Mais en fait, les grands groupes, paradoxalement, ils sont vérifiés très souvent, mais que sur des segments infimes de leur activité. Il n'y a jamais de vérification d'ensemble des grands groupes. Donc c'est pour ça qu'en ce moment on entend, ce qui est un truc lunaire, il y a trop de contrôles fiscaux en France. Ah non, surtout pas, on est même un des pays où le rapport entre les effectifs du contrôle fiscal et le nombre de sociétés est le plus faible au niveau des pays de l'OCDE, il faut juste le savoir. Donc nous on ne cesse de dire que la probabilité d'être vérifié globalement pour une entreprise aussi entre une fois tous les 60 à 100 ans, hein, voilà. Simplement ensuite, vous avez des grands groupes qui ont pratiquement tout le temps un vérificateur chez eux, mais ils pourront avoir un vérificateur pendant 100 ans. L'ensemble de la comptabilité ne sera pas vérifié parce qu'on intervient sur des champs très particuliers. On ne vérifie pas BNP Paribas au hasard. On vérifie tel type de provision sur tel type d'activité, avec tel type de filiale, etc. Voilà. Donc eux disent, on est toujours en contrôle fiscal. Non, il y a une activité, une filiale, tel type d'écriture qui est vérifiée. Voilà. Par contre, une PME sera vérifiée sur l'ensemble de la comptabilité, ça c'est vrai. Pas toujours très souvent, il y a une inégalité, c'est vrai. Certains ne seront pas du tout vérifiés et d'autres plusieurs fois. Et c'est d'ailleurs, c'est une des sources d'inégalité du contrôle fiscal, c'est que faute d'avoir renforcé la détection et l'expertise, eh bien on tourne sur les mêmes schémas de fraude. Et par exemple, quand on regarde le top 10 des redressements fiscaux, on retrouve toujours les mêmes. Ça veut dire qu'on est bien performant sur certains types de fraudes, donc les malheureuses PME qui sont dans ce ciblage-là, bon, bah, c'est un peu risqué pour elles. Par contre, les plus imaginatives et les plus inventives, eh bien, elles passent plus facilement à travers des mailles du filet.
Oui, mais justement, ça nous ramène à la question de la formation des contrôleurs. De la politique de formation, parce que bon, avec l'évolution de la financiarisation, de l'internationalisation, etc., comment est-ce que vous suivez, enfin, les pays de Tachère, tout ce qu'on a parlé, pour être formé et être au plus près pour pouvoir, contrôler avec
la finance. Il y a une formation. Alors, c'est la question de la formation des collègues.
Donc,
oui, alors, il y a une formation qui existe. Hein. Il y a l'École nationale des finances publiques. Avant, il y avait l'École nationale des impôts. Puis, donc, il y a une formation. La question, ce n'est pas tant de la formation initiale. C'est de la qualité de la formation continue. Mais encore une fois, il y a un système qui existe. Mais c'est qu'à partir du moment où on ne renforce pas l'expertise, c'est-à-dire l'étude par des experts qui seraient des fonctionnaires du haut vol, des nouveaux schémas de fraude qu'eux-mêmes auraient en charge de dire voilà ce qui se passe et voilà la réponse adaptée pour avoir un soutien opérationnel et de formation auprès des collègues, eh bien on ne peut pas malheureusement pas rehausser le niveau de qualification de tout le monde. Alors quand je dis ça, il faut savoir que les experts existent, mais ils ne sont pas assez nombreux. Là aussi, il y a des experts financiers dans certains services. En patrimoine, on a des experts. Ils existent, et quand vous avez la chance de tomber dans une direction où il y a un expert sur tel ou tel domaine, bien là, vous pouvez avoir des résultats sur tel ou tel type de fraude, par exemple. Le problème, c'est bien la question des moyens au niveau national et la diffusion de ça. Nous, par exemple, on a porté l'idée d'un réseau national d'expertise qui mettra en lien les différents experts qui existent, qui sont trop isolés les uns des autres. On est à plusieurs à avoir regardé sur différents sites internet des directions départementales spécialisées en matière de contrôle fiscal. Il y a des véritables experts qui existent, mais simplement leur intelligence n'est pas assez bien utilisée. Elle est logée quelque part dans un site. Elle fait l'objet d'une formation locale, mais qui n'est pas véritablement diffusée, ce qui est absurde. Et là, pour le coup, c'est même pas spécialement une question de fonctionnaire en plus, c'est une question d'organisation de l'expertise. Voilà, donc ça fait partie des choses qu'on ne cesse de dire. Alors, la Direction générale des finances publiques travaille. Il y a une coopération, une mission de coopération internationale. Et nous, on fait partie, et on préside même une structure qui s'appelle l'Union des personnels des finances en Europe, où il y a presque 40 syndicats qui n'ont pas tous le même vécu, où on essaie de voir comment eux sont organisés. Le problème, c'est que les structures comme ça sont assez lourdes. Et du coup, on tombe vite sur... des comparaisons, mais c'est difficile d'établir ce qu'on appelle revendicatif dans le jargon syndical. Mais par contre, les échanges d'expérience sont assez intéressants. On s'était par exemple inspiré du cas allemand qui avait des brigades pénales pour demander, nous, que certains collègues aient le statut d'officier de police judiciaire pour avoir des pouvoirs de police judiciaire en matière, par exemple, de perquisition, d'écoute téléphonique, etc., pour lutter contre la grande fraude, ce qui a été le cas en 2009.
C'était refusé, ça ?
Non, non, ça existe depuis 2009. Il y a la brigade de répression de la délinquance fiscale. Qui est, oui, avec les OPJ, et les policiers sont formés à la fiscalité, et les inspecteurs des finances publiques ont le statut d'officier fiscaux-judiciaire. Et là, il y a eu un renforcement dans le cadre de la nouvelle antifraude. Donc, c'est comme c'est encore tout nouveau, c'est très intéressant, c'est à voir comment ça évolue. C'est plutôt une bonne idée, ça. Il y a quand même, de temps en temps, quelques bonnes nouvelles.
Vincent...
On va bientôt mourir, donc...
On va arrêter là, d'autant plus que ta gorge...
Voilà.
Un grand merci d'être venu.
Merci à vous d'être venu.
Merci.